Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Qu'est-ce que l'histoire ? Un roman qui a été, disaient les frères Goncourt. Sans doute cette définition plaît-elle à Françoise Chandernagor, vice-présidente de l'Académie Goncourt, qui publie le troisième tome d'une fresque puissante et romanesque consacrée à un personnage injustement oublié de l'histoire, Sélénée, l'unique descendante d'Antoine et Cléopâtre. Sélénée, entrée dans Rome en esclave, est devenue reine du Maroc. Après les enfants d'Alexandrie et les dames de Rome, voici donc l'homme de Césarée qui nous transporte dans un monde d'or et de sang. L'homme de Césarée paraît chez Albin Michel.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Françoise Chandernagor.
Bonjour.
Françoise Chandernagor, êtes-vous chez vous dans tous les siècles ?
Oh non. Non, j'ai des siècles de... Je suis plus à l'aise ou des siècles de prédilection. Le 19e siècle ne m'attire pas tellement. Le Moyen-Âge m'intéresse, mais je ne connais pas assez bien ou je ne m'y sens pas assez à l'aise. Et les siècles où je suis bien, c'est le 17e, 18e, ça,
ouais.
vraiment, c'est...
Vous nous l'avez prouvé.
J'ai dû vivre à cette époque à un moment donné. Et par ailleurs, je me suis toujours passionnée pour l'Antiquité. Bon, j'ai fait à l'école du latin et du grec.
Ouais, ouais.
Et au fond, la mentalité antique... me passionne, même d'ailleurs aussi, pas seulement les gréco-romains, mais j'ai écrit aussi un livre qui s'appelait « Vie de Jude », où je montrais le monde hébraïque aussi à la même époque, qui est tellement différent du monde gréco-romain.
Alors, parlons de cette Sélénée, votre héroïne, fille de la grande Cléopâtre et unique survivante de sa lignée, qui, paraît-il, vous est apparue en rêve une nuit, n'est-ce pas ?
Effectivement, j'ai rêvé d'un enfant assis sur une petite charrette, et puis de suivi par une petite fille, et que cette petite fille criait « Mais voyez bien qu'il va mourir !» Et en fait, ça m'a réveillée parce que c'était moi qui criais ça. « Voyez pas qu'il va mourir ?» Et j'étais furieuse, quoi. J'étais bouleversée.
Vous étiez déjà dans l'incarnation.
Oui, et je me suis dit « Mais c'est pas moi, ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et j'ai fini par me dire « Mais ça doit être Sélénée. » Et donc je savais qu'elle existait, qu'elle avait été montrée comme prisonnière, chargée de chaînes, dans le triomphe d'Octave Auguste,
voilà,
sur ses parents.
À l'entrée dans Rome.
Voilà, dans Rome. Elle figurait dans les prisonniers du triomphe. Et qu'elle avait deux petits frères. Et donc, il y en a un que j'ai vu comme ça, agonisant sur une charrette, n'étant pas en état de marcher, et agonisant sur une charrette. Bon, je peux... Du coup, c'est ce que j'ai raconté, hein, mais je ne sais pas, il n'est pas mentionné, quand on parle du triomphe en question,
oui,
on mentionne le frère jumeau de Sélénée, parce qu'elle avait un frère jumeau, qui était lui-même enchaîné à côté d'elle. On mentionne pas le plus petit, qui avait 6 ans, peut-être parce qu'il était malade, déjà, ou peut-être parce que de toute façon, on l'a pas fait marcher à pied parce qu'il n'y arrivait pas. Quelquefois, les tout petits qu'on faisait figurer comme ça, les petits princes, il y avait des nourrices qui les portaient ou des choses comme ça. Je ne sais pas, mais dans mon rêve, il était exhibé sur une charrette et à cause de la canicule et tout ça, bon, il faisait très chaud, eh bien, il mourait sur cette charrette pendant le triomphe, quoi.
Alors, si l'on reprend la chronologie, justement,
oui,
de cette incroyable destinée. Dans les deux premiers tomes, François Chandernagor, donc dans Les Enfants d'Alexandrie et dans Les Dames de Rome, on suit la fille de Cléopâtre et Marc-Antoine,
oui,
qui a 10 ans, n'est-ce pas, au moment de la chute d'Alexandrie,
voilà,
du suicide de ses parents et de l'assassinat de ses deux frères aînés par,
oui,
le vainqueur romain, Octave.
Oui.
Donc, comme vous l'avez dit, elle entre à Rome en esclave, dans,
oui,
un monde dont elle ignore la langue.
Oui,
mais elle va savoir se faire accepter par ses ennemis. Elle sera élevée par la sœur de l'empereur Octave, qui va la marier l'année de ses 20 ans au roi d'un pays barbare,
oui,
en Afrique,
oui,
la Maurétanie, et non pas Mauritanie,
oui,
la Maurétanie qui couvre le Maroc et l'Algérie d'aujourd'hui.
Oui.
Pour assumer sa vengeance, Sélénée n'a donc d'autre choix que de créer une dynastie.
Oui. Oui.
Voilà la question qui se pose au début,
oui,
de ce troisième tome.
Oui, ça se pose d'ailleurs même pour son mari, qui lui-même a eu un destin très similaires, et c'est assez étonnant, parce que lui était le fils du roi de Numidie, et le roi de Numidie avait été vaincu par Jules César. Et vaincu par Jules César, il s'était suicidé. Et le petit avait été emmené comme prisonnier, le petit prince, qui lui, à ce moment-là, avait 3-4 ans, et avait figuré dans le triomphe de César sur l'Afrique. Alors là, il était porté, parce qu'il n'était pas capable de marcher assez longtemps, chargé de chaînes, etc., dans le triomphe. Et après, il a été recueilli par une famille bien, qui lui a donné une belle éducation intellectuelle, mais finalement, ce sont des enfants qui ont des destins absolument similaires, et elle ne le sait pas quand elle va le trouver, on l'envoie épouser un roi barbare, berbère, c'est le même nom, hein, c'est un roi berbère, mais oui, c'est la même chose, c'est le même nom, berbère vient de barbare, et ce roi barbare, en fin de compte, va s'avérer avoir eu un destin très proche du sien. Personne, peut-être, ne peut mieux la comprendre que lui. Et puis, d'autre part, il va se révéler beau, parce que nous avons beaucoup de portraits.
Ah oui, mais d'une beauté frappante est presque contemporaine, hein, d'après les bustes en bronze qu'on a retrouvés.
C'est magnifique. Il y a des bustes en marbre et en bronze. Moi, je trouve que le jeune Juba ou Iobas, comme il s'appelle selon qu'on parle en latin ou en grec, est magnifique. Il est irrésistible. Pour moi, il est irrésistible. En plus, il était extrêmement cultivé. Il parlait grec couramment et il écrivait en grec. Ce qui, pour elle, il avait privilégié le grec sur le latin. Et donc
c'était un grand explorateur, un grand guerrier, un grand urbaniste, dont plus tard, Pline l'Ancien célébrait l'intelligence, la culture.
Oui, absolument. Et Pline l'Ancien, qu'on considère souvent comme le premier encyclopédiste, en fait, avait été précédé par le roi Juba, qui avait écrit sur toutes sortes de sujets et publié des livres dont Pline s'est inspiré pour certains sujets. Oui.
Donc, dans son destin tragique, elle a une certaine chance, en fait. C'est l'aînée là, parce qu'elle est mariée de force avec un personnage d'exception.
Oui.
Mais en fait, c'est une héroïne multiculturelle, Sélénée, parce que sa culture est donc gréco-égyptienne dans la petite enfance, sa culture
est
romaine.
Elle parle le grec et l'égyptien.
Voilà. Elle est romaine.
Après, elle est romaine, elle apprend le latin.
Et punique et numide, donc quand elle épouse le roi de Maurétanie.
Elle va apprendre le libico-punique. Oui,
François Chandernagor, ça veut dire que le destin de Sélénée, j'ai presque envie de dire qu'il écrit les balbutiements de la mondialisation.
Ah, mais c'est sûr que la première mondialisation, pour moi, c'est celle de l'Empire romain. Parce que si vous pensez que pour eux, le monde était quand même beaucoup plus réduit que pour nous. Ils pensaient qu'il y avait 3 continents, ils pensaient que l'Afrique était très petite, de toute façon un peu très petit continent. Et l'Asie, ils ne connaissaient pas toute l'Asie, ils en connaissaient qu'un petit bout. Puis l'Europe, d'ailleurs, ils ne connaissaient pas non plus toute l'Europe. Mais quand on regarde le monde connu d'eux, on s'aperçoit qu'ils ont à peu près conquis tout le monde connu et qu'ils ont exporté leur culture à peu près partout. Et donc, du point de vue commerce, ils commercent avec l'Inde, ils commercent avec l'Afrique, bien sûr, ils commercent avec les futurs vikings, le commerce romain va jusque dans le nord de l'Europe. Et donc, finalement, c'est la première mondialisation, oui, j'en suis bien persuadée. Alors, elle vit, dans sa chair, ce n'est pas le cas de tout le monde quand même d'être trimballé d'un continent à l'autre, mais elle passe sur les 3 continents, puisqu'à l'époque on range l'Égypte dans l'Asie. On considère que l'Égypte fait partie de l'Orient pour les Romains. Et donc elle est une orientale qui a reçu une éducation européenne et qui ensuite va régner sur un pays d'Afrique. Oui. Donc c'est un destin multiculturel.
C'est un voyage absolument magnifique. Je vous propose cet après-midi en compagnie de François Chandernagor qui fait paraître chez Albin Michel L'Homme de Césarée. A tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Née en Égypte, entrée à Rome en esclave et devenue reine du Maroc, voici le destin affolant de Sélénée, unique descendante d'Antoine et Cléopâtre, à qui François Chandernagor redonne vie dans une fresque dont paraît le 3e chapitre, L'Homme de Césarée, chez Albin Michel. Alors, cher François Chandernagor, on va prendre la machine à remonter le temps. On va se rapprocher un petit peu, un tout petit peu de l'époque actuelle. En 1757, un jeune esclave, répondant au nom de Bengale, débarqua en France d'un pays lointain, je vous vois sourire, les Indes donc. Et ce jeune esclave fut recueilli par le maréchal de Bussy, qui pendant 25 ans avait secondé le gouverneur général des établissements français en Inde. Ce jeune esclave, qui fut affranchi et baptisé, reçut alors le nom de Charles-François Chandernagor. Il est donc votre ancêtre ?
Oui, absolument. Il est mon ancêtre et j'ai trouvé des traces de lui alors dans le Cher, dans le château de Bussy-Castelnau, donc qui appartenait au maréchal de Bussy. Il a eu pour marraine la sœur du maréchal de Bussy. Alors, est-ce qu'il était métis et que il avait était fils d'une indienne et d'un père français je ne pense pas qu'il soit le fils du maréchal de Bussy.
J'allais vous poser la question. Pourquoi l'aurait-il ramené en France alors s'il n'était pas son fils?
Charles-François n'est pas revenu naturel. Avec le maréchal de Bussy qui, lui, est revenu prisonnier des Anglais et a réussi à s'évader lors d'une attaque de corsaires. C'était des vies extraordinaires. Bon, donc, on ne sait, pas vraiment qui... Mais on ne sait pas vraiment qui l'a ramené en France, mais oui. Il est arrivé en France 3 ou 4 ans avant le maréchal de Bussy. Donc il a été recueilli par la sœur du maréchal, pour quelle raison, je ne sais pas. Et est-ce que donc il était complètement indien? Il passait pour noir à l'époque, vous savez, comme Zamor,
qui était
à la cour auprès de Madame du Barry.
Voilà.
Zamor était les femmes aimaient bien avoir un petit page de ce genre-là, et c'est un peu le rôle que Charles-François Chandernagor, dit Bengale, a tenu auprès de la sœur du maréchal de Bussy. Il l'accompagnait un peu partout, un peu comme un petit laquais. Et puis vers 25 ans, quand le maréchal de Bussy est reparti en Inde, parce qu'entre-temps, le maréchal était revenu dans son château du Cher, et quand il y a eu une nouvelle guerre avec les Anglais, il est reparti en Inde avec Suffren. Et là, Charles-François s'est émancipé, si je puis dire,
oui.
Et il est parti s'installer dans le Poitou, et il a épousé une Poitevine.
Il est devenu cuisinier.
Et il est devenu cuisinier.
Et donc, affranchi et baptisé, n'est-ce pas ?
Baptisé, absolument. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est baptisé à 10 ans, à peu près, 10-12 ans, et il n'y a pas très longtemps qu'il sait écrire, manifestement. Il a signé lui-même son acte de baptême, et très longuement, parce que Charles-François Chandernagor Bengale, c'est long, et ça occupe toute la page. Il écrit gros, comme écrivent souvent les enfants. Voilà. Et donc, ça occupe presque toute la page du recueil des baptêmes de la paroisse.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est absolument magnifique, ce nom de Chandernagor. C'est celui d'une ville, donc, du Bengale, qui se trouve à l'est de l'Inde.
Oui.
Vous et qu'on était
en train de
perdre.
Votre
nom magnifique à cet enfant
oui,
qui soudain
absolument.
Débarque voilà, oui. Dans la Creuse.
Et on ne sait pas, je pense pourtant qu'il n'était pas du Bengale parce que Bussy n'est jamais allé dans le Bengale, n'est jamais allé à Chandernagor. Les Duplex, si. Duplex a été gouverneur de Chandernagor, mais
oui.
Pas Bussy. Alors, est-ce qu'il est venu parler Duplex? Enfin, je ne sais pas parce que ces noms aussi bien Bengale que Chandernagor, qui sont des surnoms quoi, au départ, font allusion à la région du Bengale, effectivement. Or, Bussy n'a vécu et ne s'est battu que dans le Deccan. Et donc, je pense que Charles-François était plutôt un dravidien, quelqu'un donc d'ailleurs de plus coloré que les Bengalis. Mais je ne sais pas, vraiment tout ça, ben voilà, c'est un peu comme tous les descendants d'esclaves, il y a un moment où on ne va pas plus loin, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les origines.
Ou alors c'est l'imagination qui devra prendre le relais.
Je trouve que ça développe bien l'imagination.
N'est-ce pas
oui.
Alors, est-ce que cet ancêtre inattendu, François Chandernagor, cet ancêtre au destin follement romanesque, parce que il ne devait pas y avoir beaucoup d'Indiens dans la Creuse au XVIIIe siècle,
non,
n'est-ce pas ?
Assurément.
Est-ce que c'est une des clés de votre fascination pour l'histoire, pour la grande histoire ? En tout cas, on voudrait le croire.
Je ne sais pas, mais je sais que, oui, j'entendais raconter cette histoire par mon père, qui était le premier à avoir fait des recherches généalogiques sur la famille. Et sa grand-mère ne voulait pas qu'il en fasse, parce qu'elle disait, cherche pas mon petit, on est tous des métis. Et elle préférait qu'on ne sache pas, et ils étaient d'autant plus métissés qu'ils s'étaient remariés entre cousins germains deux fois. Donc, ce qui faisait que la proportion de sang non blanc, finalement, chez nous, était assez forte, oui, encore. Et ben, mon père était ce qu'on appelle, ce que les colons appelaient en matière d'esclavage, un quarteron, c'est-à-dire qu'il avait un quart de sang non français, quoi. Et bon, moi je suis une octavone, alors à ce stade-là, vous savez, les gens passaient la ligne. Hein. Bon, mais quand même, Carteron, c'est ce qu'était Alexandre Dumas.
Oui.
Et on dit toujours, Alexandre Dumas avait un type, etc. Bon, mon père, c'est l'équivalent d'Alexandre Dumas dans une généalogie de métis.
Bien.
Oui.
Alors, Vous avez écrit sur Madame de Maintenon, vous avez écrit sur le jeune Louis XVII, sur Cléopâtre, sur son unique enfant survivant, la reine Sélénée. Pourquoi nous êtes-vous jamais emparé du destin de ce jeune esclave du Bengale, devenu Charles-François de Chandernagor?
Parce que je ne sais pas assez de choses sur lui et j'ai du mal à l'imaginer.
Alors on il y a une pudeur.
Si je pouvais savoir vraiment d'où il vient, vous voyez, c'est ça, il apparaît brusquement. Il a 10 ans. Où était-il avant? À Pondichéry, probablement, mais il y a quelque chose de compliqué pour moi, parce que, notamment, il se trouve que mes beaux-parents ont vécu 5 ans en Inde. Et évidemment, ils me demandaient de venir. Je pouvais loger chez eux et dans les meilleures conditions. Et j'ai pris le prétexte que j'avais des enfants petits et que l'Inde, c'était pas un endroit très sûr au point de vue sanitaire. Et je n'y suis pas allée en 5 ans. Ils se proposaient de m'emmener à Chandernagor, ils y étaient allés d'ailleurs.
Oui. Donc vous n'avez jamais visité Chandernagor?
Non, je ne connais pas l'Inde. Donc il y a quelque chose de... Voilà, on peut peut-être pas rester toujours le derrière entre deux chaises. Je crois vraiment que j'ai choisi mes ancêtres les Gaulois, peut-être.
Voilà, la bonne réponse. Alors, François Chandernagor, dès que vous avez su lire, vous avez commencé à écrire, donc dès l'âge de 5 ans, des histoires illustrées, puis des contes, puis des débuts de romans, tout en dévorant, dès l'âge de 11-12 ans, tout Balzac, tout Stendhal. À 14 ans, votre décision était prise. Votre vie sera celle d'un écrivain. La route flamboyante n'a pas été aussi droite. On va l'évoquer tout de suite. On fait une pause très courte. On se retrouve avec François Chandernagor.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Mais quel bonheur de recevoir François Chandernagor qui fait paraître chez Albin Michel l'homme de Césarée. François Chandernagor. Alors, l'histoire est connue, mais elle est trop savoureuse pour ne pas la rappeler. Vous êtes en 6e. Un professeur vous demande d'indiquer sur une fiche 3 métiers qui vous tentent. Et vous répondez écrivain, soldat ou homme politique.
Et oui, et tout était au masculin parce que aucun nom de métier n'était féminisé à l'époque. On ne peut pas dire que soldat, d'ailleurs, même maintenant, un métier typiquement
féminin. Mais pourquoi
féminin.
Soldat, écrivain, on comprend. Homme politique, votre père
l'était. C'était un peu l'imitation de mon père.
Mais
soldat, j'avais une grande admiration pour Jeanne d'Arc, il faut dire. Parce qu'on n'avait pas tellement de modèles féminins dans l'histoire. Finalement, l'histoire des femmes, on la connaissait peu. Ouais. Et si elles ont exercé une certaine influence politique, elles l'ont exercée parfois, et notamment à Rome, par exemple, c'est absolument sûr. Elles ont une grande influence à un moment donné, mais c'est en passant par l'intermédiaire d'un homme, par l'influence qu'elles acquièrent sur un homme. Donc voilà, moi j'admirais Jeanne d'Arc parce que c'était pratiquement le seul personnage féminin qu'on nous donnait à admirer à l'école primaire, quoi, pour les femmes. Oui.
Donc voilà, écrivain, soldat ou homme politique, parce que à cette époque-là, depuis 3 ans déjà, votre père était député de la Creuse. Alors, la carrière de votre père, elle est exemplaire en tout point. Il a été 30 ans maire de sa ville, 22 ans député de la Creuse, énarque, 10 ans président du Conseil général de la Creuse, ministre des Affaires européennes sous Mitterrand, puis premier président de la Cour des comptes. Sauf que, enfant et adolescente, ce père brillantissime, vous l'avez très très peu vu.
Ah oui, ça très très peu. On le voyait, on l'apercevait une fois tous les 15 jours, quoi.
Vous l'aperceviez.
Oui. Et d'ailleurs, il était toujours de mauvaise humeur parce que la vie politique développe chez les hommes politiques une paranoïa assez marquée quand même. Mais c'est vrai, les pauvres. D'ailleurs, après coup, moi je leur en veux pas parce que ils sont tout le temps attaqués. Donc quand ils arrivent dans leur famille, la moindre chose que vous pourriez dire, c'est mal reçu. Même si c'est pas une critique, c'est pris comme une critique. Et mon père était tout le temps en colère, quoi. Je veux dire. Donc, on n'était pas ses adversaires, mais ils nous percevaient probablement comme ça. Puis, on était probablement des gêneurs. Et puis, comme il était le seul dans la famille à avoir fait des études, maman avait quitté l'école à 14 ans. Lui, il avait été boursier, il avait fait des études brillantes d'ailleurs. Mais on pouvait s'adresser à personne d'autre pour se faire aider. Et il refusait méchamment. Moi, il m'envoyait bouler. J'avais très peur de lui. Et je le connaissais peu. Et en plus, si je lui demandais quelque chose...
Mais donc, vous n'aviez pas d'autre choix que d'être une enfant extrêmement brillante pour tenter de retenir son attention?
Oui, J'imagine même que ça
donc
peut
vous,
être
donc
une
vous
des
y
causes.
Parveniez.
Ça, oui, plus ou moins. Enfin, il ne m'a jamais spécialement félicité, vous voyez. Non, ça, c'était pas le genre.
Mais j'ai même appris, c'est hallucinant, qu'il ne vous a fait un premier compliment qu'au 12e roman.
Oui,
c'est ça ?
Oui. Parce que je me souviens que, par exemple, quand ma mère a lu L'Allée du Roi, maman oui. lisait peu. Alors, elle a lu quand avant que ça sorte, mais quand ça a été imprimé. Et elle dit à mon père, en famille, j'étais pas là, mais il y avait mes frères et sœurs. Et elle dit, oh, c'est un superbe roman, ça, c'est formidable, etc. Et mon père lui dit, mais qu'est-ce que tu connais, toi, qui n'as même pas fait d'études et qui lit rien. Mais non, c'est pas super, etc.
Oh.
Voilà. Alors, elle me l'a raconté d'ailleurs après elle-même aussi, tellement elle était vexé qu'il accueille comme ça. Mais je pense que maintenant, j'analyse mieux. Mon père est toujours en vie. Il a 100 ans cette année.
Oh, mais c'est admirable.
Il va très bien. Et j'analyse mieux. Il a tout fait tout seul.
Oui.
Il était vraiment d'une famille modeste. Personne n'avait fait d'études. Et au fond, il est monté tout seul. Et après, il ne savait pas tendre la main à d'autres. Il n'a pas su. Mmh. Et il estimait qu'il n'y en avait pas besoin. Mmh. Qu'on n'avait qu'à se débrouiller tout seul.
Alors justement, ce goût furieux de la lecture, François Chandernagor, eh bien ce n'est pas votre père qui vous l'a donné. C'est un étonnant personnage, totalement autodidacte, pâtissier de son état, qui ne vivait que pour les livres quand il cessait de travailler, et qui vous aiguillait très finement dans vos lectures. Il s'appelait Georges Léautey. Et vous dites que en fait, c'était l'un des hommes les plus cultivés que vous ayez jamais rencontré.
Oh, le plus cultivé, sûrement, oui.
Le plus cultivé.
Oh, oui, oui, peut-être. Parce que sa culture était très variée. Il avait, par exemple, des connaissances musicales extraordinaires, mais en même temps, il me faisait découvrir les meilleurs polars de la série noire, vous voyez. Enfin, je veux dire, c'était, l'ouverture était grande. Et enfin, en histoire, c'était pas son point fort. Parce que, de toute façon, lui, il avait quitté l'école à 12 ans. Hein. Son père avait décidé qu'il fallait le mettre apprenti dans la pâtisserie et qu'il fallait qu'il travaille, et voilà. Mais il a acquis par lui-même une culture fabuleuse, et moi, il m'a énormément apporté. Puis comme mon père ne me faisait rien visiter, genre la première personne qui m'a emmené à la Comédie Française, la première personne qui m'a fait visiter un musée, la première personne qui m'a emmené à la cathédrale
c'est
de Chartres, je sais pas quoi, c'est lui. Tout, pour tout, je pourrais dire, pour tout, pour presque tout, quoi. Mais moi, je lui ai apporté en histoire. Et l'histoire, ça, c'était mon père aimait l'histoire. C'était donc intéressé à la généalogie de sa famille. Et j'ai peut-être développé aussi ce goût de l'histoire parce que quand par hasard il passait à la maison, je savais que si on partageait un repas, si je l'attirais sur des questions historiques, si je vais parler sur l'histoire, il y aurait un échange.
Oui.
Que les autres, d'ailleurs, frères et sœurs ou mères, ne partageaient pas. Et je l'avais pour moi, parce que là, moi, je me passionnais pour l'histoire. Et donc, je me souviens qu'à 7 ans, il m'avait déjà raconté le plan de la bataille d'Austerlitz ou des choses comme ça.
Et vous avez brillé en classe, parce que vous avez fait une démonstration extraordinaire.
Oui, au tableau. Oui.
Voilà. À 7 ans, la bataille d'Austerlitz.
Oui. Mais fabuleux. Ça, je lui devais, vous voyez.
Oui.
Donc, je pense que j'ai développé ce goût pour qu'il s'intéresse un peu à moi, oui, certainement. Mais pour tout le reste, c'était notre ami Georges qui m'apportait tout, oui.
Alors, en sixième, effectivement, vous aviez indiqué sur votre fiche, François Chandernagor, écrivain, soldat ou homme politique, mais vous n'avez pas opté tout de suite, vous n'avez pas opté en premier pour une carrière d'écrivain. Vous avez fait l'ENA, dont vous êtes sortie major, première femme major de l'ENA en mai 69. Mais entre les murs de l'ENA, vous avez appris cette chose absolument insensée. Tous les préfets, sauf un, vous avez refusé comme stagiaire, car il craignait le courroux du gouvernement de De Gaulle face à la fille d'un homme de gauche dans cette grande école, c'est ça ?
Mais oui, et ça je l'ai appris très tard. J'ignorais que l'école avait eu tant de peine à trouver un préfet qui m'accepte. Et ça n'a pas été n'importe quel préfet, il était en poste depuis 11 ans dans le même département, où auparavant il avait été chef d'un maquis pendant la guerre, et c'était un homme vertébré qui ne craignait rien, et avec qui je me suis très bien entendue, mais sans savoir que tous les autres m'avaient refusé. Parce qu'il y avait des élections cette année-là, en plus. Il y avait des législatives. C'était l'époque de la FGDS, donc la gauche risquait de gagner. Et donc, c'était tendu, et ils ne voulaient pas
que la
fille d'un député socialiste
gauche,
puisse
voilà.
voir ce qui se passait parfois dans les cabinets des préfets. Mais en plus, je leur ai j'aurais jamais dit ce que j'aurais vu. Enfin, je veux dire, j'étais neutre, je n'aurais pas... jamais j'aurais trahi mes devoirs de fonctionnaire, mon devoir de réserve et tout ça. Pour moi, c'était clair. Et on imagine n'imagine pas, quand on dit aujourd'hui le gouvernement fait pression sur ceci ou sur cela, mais on n'imagine pas à l'époque de Gaulle les pressions qu'il y avait sur l'information, sur la fonction publique, tout ça, sur la magistrature, sur tout ça. C'était très fort hein, quand même. C'était, on oublie. Moi, je ne peux pas oublier complètement.
On agite la mémoire cet après-midi en compagnie de François Chandernagor qu'on retrouve dans un court instant.
Europe 1. À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants. Chaque geste est urgent, puisque le jour se lève. La tempête s'achève en murmures brûlants. Il s'était perdu dans l'obscurité profonde. Là, les étoiles se fondent au jour apparaissant. À leurs pas hésitants, on sent la fin du monde. Encore une seconde, encore un instant. Le souffle qu'on entend, ces deux cœurs qui s'arrachent. Une main se détache et l'autre la reprend. Aux yeux l'égarement des oiseaux qu'on relâche. Et qui cherchent où se cache le piège qu'on leur tend. Au moindre éloignement, la vie qui les oblige, le vide, le vertige, et faire semblant. Ils se couvrent de serments, se jurent de poursuivre leur course en équilibre sur les pierres des torrents. À l'aube revenant, chacun séparément continuera le rêve. Le seul qui les soulève et les garde vivants. C'est éternellement qu'ils se croyaient soudés. Et même l'éternité pour eux s'est passée longtemps. Ils étaient deux passants dans l'anonyme foule. Dans ce fleuve qui roule, dans la masse des gens. Ils se sont reconnus, un peu trop tard peut-être. Mais c'est se reconnaître en vrai qui est important. À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants.
On quitte Francis Cabrel qui chantait à l'aube revenant.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Personne avec plus de feu, de puissance et de vérité ne ressuscite le monde antique comme François Chandernagor, qui publie chez Albin Michel L'Homme de Césarée, troisième tome d'une fresque qui peint le destin follement romanesque de l'unique descendante d'Antoine et Cléopâtre, Sélénée. François Chandernagor, alors on évoquait à l'instant Léna, dont vous êtes sortie major de promo en mai 69, première femme major de Léna, à la stupeur de ces messieurs, car je rappelle qu'à l'époque, ni HEC, ni Polytechnique n'étaient ouverts aux femmes. Alors, sans fausse modestie, C'est le fait que vous soyez sorti major de l'ENA qui a forcé Polytechnique, créé en 1794, et HEC, créé en 1881, à ouvrir leurs portes aux femmes ?
Oh non, je ne crois pas que ce soit moi.
C'est
non.
possible ?
Non, mais enfin, ça commençait à devenir nécessaire. On voyait bien que quand une grande école était par hasard ouverte aux femmes, à ma connaissance, il n'y en avait pas d'autre que l'ENA, parce que même Normale Sup, c'était pas la même école pour les garçons et pour les filles. Donc à l'époque, quand on pouvait prouver que du moment qu'une grande école était ouverte aux deux, était mixte, ça pouvait se passer que les femmes avaient leur chance, quoi. On n'était pas plus bêtes que les hommes. Mais voyez bien, bon, chacun a ses défauts, mais il n'y en a pas qui valent mieux que les autres, simplement. Il n'y a pas de raison que seuls les hommes détiennent le pouvoir, ça c'est
bien sûr.
Sûr.
Alors, je poursuis. À 24 ans, François Chandard-Dagor, vous allez entrer au Conseil d'État, vous exercerez les plus hautes fonctions, dont celle de rapporteur général, mais l'écriture est une passion dévorante à laquelle jamais vous ne renoncerez, en ayant une vie acrobatique, avec trois jeunes enfants à élever et des missions très lourdes au Conseil d'État. Vos deux premiers manuscrits, envoyés à un seul éditeur, ont été refusés. Vous vous souvenez des arguments de ce refus ?
Oh non, il n'y a pas beaucoup d'arguments.
Ont-ils été lus,
c'est la lettre
d'ailleurs ?
Oh si, parce que le deuxième, je l'avais rencontré chez un petit éditeur.
Mais que vous avez-il opposé ?
Un peu les constructions de phrases, des maladresses, un peu comme ça. Alors j'aurais pu reprendre ce manuscrit-là en tenant compte des quelques conseils littéraires qu'il me donnait, mais j'ai carrément fait autre chose. Puis
et ça vous a fichtrement réussi.
Oui.
Mais alors le troisième manuscrit, vous ne l'avez pas envoyé à la même maison d'édition, j'imagine.
Ah non, non, mais toujours des petites maisons. Je ne sais pas, j'ai jamais abordé Gallimard, des gens comme ça, jamais, j'aurais pas osé.
Eh bien, dites-moi,
ils auraient aimé,
vu que ce troisième manuscrit s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires. Alors parlons-en, François Chandernagor. Ce troisième manuscrit, c'était celui de l'Allée du Roi, qui réhabilitait dans des mémoires imaginaires, en fait, le personnage de Madame de Maintenon, épouse morganatique de Louis XIV. L'Allée du Roi, alors, fut plus qu'un triomphe de librairie. L'Allée du Roi a été également portée à l'écran par Lina Companès avec Dominique Blanc dans le rôle de Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. Et quand on entre ainsi sur la scène littéraire, alors pour le coup, cette fois-ci célébrée par toute la critique avec des records historiques de vente, mais quand ça arrive, l'année où son père devient ministre des Affaires européennes,
ah oui, c'est
pour
vrai,
François
c'était la
Mitterrand.
Même année, oui, j'avais oublié. Oui.
Mais oui, c'est-à-dire en 81.
Oui.
Deux triomphes en même temps. Donc c'est un destin familial qu'on voudrait savourer. Sauf que Votre père qui ne vous félicitait pas déjà adolescente, qui ne vous a pas félicité pour ce livre vendu à 2 millions d'exemplaires, comment a-t-il vécu cette année 80 où on parlait autant de sa fille, peut-être presque encore plus que de lui?
Oui, non, je sais pas. Mais il était très pris encore, donc il voyageait beaucoup, forcément, ministre des Affaires européennes. Donc je ne sais pas, je peux pas vraiment dire. Et puis je vivais plus à la maison à ce moment-là. J'étais mariée, j'avais des enfants. Donc je ne sais pas comment il l'a pris. J'espère qu'il l'a bien pris, mais je peux pas en dire plus parce qu'il s'exprimait peu sur ces sujets-là. Et là, j'étais contente, par exemple, mes derniers livres, par exemple, là, L'homme de Césarée, quand je l'ai eu au téléphone, après qu'il l'avait eu, il m'a dit « Ah, c'est bien, j'ai pris plaisir à le lire ». Et c'est le maximum de ce qu'il peut faire, mais c'est déjà très bien. Hein.
Alors, pour lequel, j'ai dit tout à l'heure, c'est au 12e roman, n'est-ce pas, qu'il vous a félicité pour la première fois. Il paraît, alors là je vais être impudique, mais il paraît qu'il en a profité aussi pour vous dire qu'il vous aimait ce jour-là.
Ah oui, peut-être qu'il me l'a dit, mais pas très souvent. Mais c'est pas le genre des gens de son âge, peut-être de sa génération. Les parents étaient beaucoup plus durs que maintenant. Ils savaient pas dire je t'aime à leurs enfants, ça se disait pas, ils étaient pas tendres dans ma famille. Pas du tout quoi, on se faisait pas des petits bisous dans le cou. Enfin, c'était
ni
pas
votre
le genre.
Mère
Non, ma mère n'était pas tendre non plus, pas du tout. Mais elle était, elle donnait plus facilement son estime. Non, elle n'était pas tendre du tout. Et donc.
Et vous l'êtes, vous, avec vos enfants, vos petits-enfants.
Pas formidable.
Assez.
Enfin, j'espère que tendre, je le suis, mais je ne sais pas. J'ai remarqué que je ne sais pas bien encourager parce que même quand je suis sortie major de l'ENA, je me souviens qu'il y a des gens qui me disaient « on a dû déboucher le champagne chez toi ». Et je dis « non ». Non. Bon, et donc, j'ai cette attitude avec mes enfants. Si c'est bien, ben c'est bien, tant mieux. Alors que si c'est mal, je les engueule. Donc, il faudrait que je sache plus encourager. Chose que je sais peu faire, parce
en tout cas,
que
vous
je
le
n'ai
réalisez.
Pas beaucoup eu.
Donc, c'est,
oui,
c'est déjà
je m'en aperçois.
Voilà,
je pense que je suis déjà mieux comme ça avec mes petits-enfants. Mais je pense que et mon mari me le dit parfois, parce que lui sait faire ça mieux, mais parce que lui, comme il dit, moi, quand j'ai eu le brevet, ça a été une fête à la maison. Et ça, je crois vraiment qu'on fait progresser les gens beaucoup en étant positif.
Oui, parce qu'on les fait croire en eux.
Oui.
Alors revenons à la littérature, François Chandernagor. Écrire un roman, dites-vous, n'est pas qu'une affaire de style. C'est aussi une question de maturité. Il faut un minimum d'expérience de la vie pour ça. Ce à quoi j'ai envie de vous répondre, mais alors vous expliquez comment, par exemple, que le premier roman de Radiguet, Le diable au corps, écrit quand il avait seulement 19 ans, ait autant de puissance. Ou encore, vous expliquez comment la force vénéneuse du premier roman de Sagan, écrit quand elle avait seulement 17 ans, Bonjour tristesse.
Alors, pour Sagan, je ne sais pas. Pour Radiguet, il est évident que ce n'est pas un roman, c'est son histoire. Donc, écrire, faire un récit de sa propre histoire, bon, ça demande une maîtrise littéraire qu'il avait.
Mais oui.
Mais enfin, ça n'est pas un roman. Hein. On a découvert après que c'est vraiment ce qui s'est passé.
François Chandernagor, moi qui ai lu presque tous vos livres, je sens dans les interstices de votre écriture un changement, un autre regard sur ces hasards qui font un destin, qui font une vie. Comme lorsque vous écrivez dans votre nouveau roman, L'homme de Césarée, comment, à 20 ans, Sélénée aurait-elle su ce que l'âge seul nous enseigne ? L'aléa et le fortuit ont plus de part au succès de nos entreprises que le mérite et l'énergie. Alors, je ne crois pas avoir lu ce genre de phrase dans vos romans avant que vous ne combattiez un cancer il y a quelques années, et fort heureusement, vous êtes guéri. La maladie rebat bien des cartes et bien des certitudes.
La maladie, et puis tout de même, l'observation, quand on arrive à un certain âge, on regarde les trajectoires des autres. Comment ça s'est fait de gens qu'on a connus tout jeunes, et où sont-ils? Il y en avait sur lesquels on aurait parié, d'autres pas. Mais on s'aperçoit que ça, le hasard a eu beaucoup de part dans leur vie. Alors ils ont peut-être su, certains, saisir les opportunités et d'autres pas les saisir. Ça, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est une rencontre fortuite. Ce sont des choses de ce genre-là qui décident d'une vie. Alors, il vaut mieux quand même se donner des buts.
Oui, bien évidemment. Bien évidemment, mais vous écrivez l'aléa et le fortuit,
n'est-ce pas? Oui.
Ça veut dire qu'il ne faut pas le dire à la jeunesse, bien sûr, parce qu'il faut qu'elle ait des buts, il faut qu'elle ait des rêves. Mais le plus important dans la construction d'un destin n'est ni le mérite ni la volonté, c'est le hasard qui, s'il est heureux, s'appelle la chance.
Oui, c'est les deux.
Mais... il faut avoir vécu pour le comprendre.
Ben oui, il faut avoir vécu pour le comprendre. Mais moi, je vais vous raconter une chose, par exemple. C'est que j'ai connu mes deux maris le même jour. Je suis divorcée, je suis remariée. Je les ai connus à 18 ans le même jour et par hasard, parce que j'avais posé ma candidature pour avoir une bourse pour aller faire un voyage aux États-Unis. J'ai été sélectionnée alors que je pensais que j'avais aucune chance, mais j'avais posé ma candidature à tout hasard. On était une centaine à poser la candidature et il y avait 8 personnes retenues par les Américains pour cette bourse. Et dans les 8 personnes, il y avait, heureusement j'étais la seule fille, ce qui était agréable, et il y avait 7 garçons. Et dans ces 7 garçons, il y en a 2 que j'ai successivement épousés.
C'est extraordinaire.
Alors, si je n'avais pas posé ma candidature parce que j'ai failli pas la poser, ou si je n'avais pas été retenue, c'est pas eux que j'aurais épousé.
Autre
je sais
vie,
pas quelle
autre
aurait
destinée.
Été, quelle aurait été ma vie, oui. Donc, voilà. Et ça, c'est vraiment la part d'aléa. Oui. Alors après, il faut mettre de l'énergie pour...
Voilà. Et puis, lorsque le hasard est heureux, on l'appelle la chance.
Bah oui.
Voilà.
Oui.
On retrouve tout de suite François Chandernagor.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
François Chandernagor, qui fait paraître chez Albin Michel L'homme de Césarée, et cet après-midi mon invité. Cher François Chandernagor, On peut dire que 40 ans séparent la naissance de Sélénée, donc votre héroïne, à laquelle vous consacrez le troisième chapitre d'une grande fresque, donc l'unique descendante d'Antoine et Cléopâtre. 40 ans séparent la vie de Sélénée, en fait, de la naissance de Jésus, puisque Sélénée est morte en l'an 6, quand Jésus avait 6 ans. Ils auraient pu
alors,
se croire.
Sélénée, on ne sait pas quand elle est morte, c'est une des hypothèses, cette date.
C'est juste
mais
une
moi,
hypothèse.
Je ne la retiens pas. Donc, je la fais vivre plus longtemps que ça.
D'accord.
Parce que ça ne me persuade pas du tout, cette date, les arguments qu'on a. Parce qu'en réalité, on ne sait pas. Hein. Mais je ne pense pas. Mais de toute façon...
Parce que sinon, elle serait décédée à 46 ans.
Jésus est né, comme vous savez, en moins 5 ou moins 6.
Oui, c'est ça.
On s'est trompé sur la date. Oui, pas en zéro.
Bon, et pas en loin. Donc, ils auraient d'autant plus...
Mais vous savez...
Se croiser.
Mais je me suis payé ce luxe dans le quatrième volume. Vous allez voir.
Mais
ils se croisent.
Mais attendez, c'est extraordinaire. Parce que je pose la question, mais alors vraiment, vous voyez, hasard heureux.
Ils se croisent parce que pour moi, ce qui était intéressant, c'est de montrer que se développent en même temps des mondes si différents. Le monde romain est très différent du monde judéen de l'époque, et les croyances des uns et des autres sont aux antipodes et les façons de vivre. Et elle va croiser, sans le savoir, bien sûr, un petit garçon, et ben oui, c'est Jésus enfant. Et le christianisme va amener dans ce monde très cruel qu'est le monde romain quand même, la compassion, ce qui est un sentiment qui est inconnu des Romains.
La compassion.
Et c'est le christianisme qui l'apportera.
Alors justement, vous faites cet aveu étonnant. Vous dites, je ne crois pas en un Dieu à la fois infiniment bon et tout-puissant, je préfère croire en un Dieu infiniment bon, mais pas tout-puissant, car il existe un principe de mal qui est à l'œuvre dans le monde. Dieu a besoin des hommes à chaque instant. Dieu a besoin qu'on se batte pour lui parce que Dieu peut perdre.
Oui, j'ai toujours pensé ça. Alors, vous me direz, c'est une idéologie qui a existé dans les débuts du christianisme, d'ailleurs. C'est un peu manichéen comme vision. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un principe de bien et un principe de mal à l'œuvre dans le monde. Et qu'il faut faire gagner le principe de bien. Mais je vais pas jusqu'à incarner le diable et tout. Bon, je sais pas, je l'ai jamais rencontré.
Non, mais la notion
mais, l'idée
qui dit que Dieu n'est pas tout puissant.
Ce monde n'est pas que bon et que nous devons l'améliorer et que ça c'est aller vers Dieu, quelle que soit la manière dont on l'appelle.
Enfin, Dieu. Oui. Mais alors le problème est de
Dieu
savoir.
Dieu a besoin des hommes. Oui,
Est de savoir pour quel Dieu se battent les hommes.
Comme moi, je pense que si Dieu existe, il ne peut être que toute bonté, sinon il n'est pas bien intéressant. Je pense pas que ce soit lui qui demande qu'on tue. Non, certainement pas.
Vous êtes agnostique ?
Oui.
Alors, pour écrire ce roman sur la vie de Jude, frère de Jésus, donc, vous êtes remise au grec ancien pour lire les grands textes de l'époque. Vraiment, vous n'étiez pas loin du tout à ce moment-là de l'univers de Sélénée, parce que vous avez pris un temps assez long entre le deuxième et le troisième chapitre de cette grande fresque consacrée à la destinée de l'unique descendante d'Antoine et Cléopâtre. Mais là, on a l'impression que c'est concentrique et ça se resserre.
Oui, j'ai pris aussi beaucoup de temps parce que j'ai une maladie grave et que j'ai lutté contre cette maladie avec succès, donc comme vous l'avez
oui.
dit, mais sans m'attribuer le moindre mérite, parce que là aussi il y a une grande part de chance. Hein. Et donc,
mais ça
m'a occupée quand même
sur Jude à ce moment-là plutôt que d'écrire la suite de l'histoire de Sélénée.
Oui.
Pourquoi ?
Écoutez, j'ai eu l'idée d'écrire sur Jude en rentrant d'une messe de Noël, d'une messe de minuit, où j'avais trouvé pas bien, j'avais trouvé que le prêtre parlait mal et tout ça. Enfin, j'avais pas trouvé le sermon bien. Et alors qu'il y a de beaux textes quand même, même si je ne crois pas que Jésus soit né à Bethléem, etc. Bon, mais enfin, les textes de Luc. Luc est un romancier, ça je suis d'accord avec Emmanuel Carrère sur ce point. Luc est vraiment un romancier né, et l'évangile de Luc, j'en prends et j'en laisse, mais enfin bon. Mais j'avais trouvé que c'était pas à la hauteur. J'aime cette messe. Bon, comme la messe de Pâques, ce sont des messes qui sont importantes pour moi, alors que je suis agnostique. Mais bon, ce sont des symboles forts, que ce soit la naissance d'un nouvel enfant, C'est un symbole d'une... Chaque enfant contient en lui tout possible, enfin. Donc, j'adore ça. Et puis la résurrection, bah, c'est bien aussi. Donc, ce sont des messes auxquelles je vais. Et j'étais déçue. Et tout d'un coup, dans la nuit, je me suis mise à relire les quatre évangiles en me disant, mais enfin quand même, c'est mieux dans le texte. Et à partir de là, je dis, mais au fond, je vais écrire à partir de la vie d'un frère de Jésus, d'un petit frère qui aurait assez peu connu le grand frère, mais qui se trouve embarqué dans cette histoire extraordinaire qu'est le démarrage du christianisme, quoi.
C'est prodigieux. Juste avant de faire une pause, il paraît que vous avez dans la maison de famille qui est dans la Creuse, qui est abritée par des chênes plusieurs fois centenaires, avec dans le parc deux étangs, vous avez une nécropole gallo-romaine près de votre maison. Donc ça veut dire que ce passé-là rattrape même votre présent.
Ah oui, j'en suis ravie. Oui. Et j'entretiens bien ma nécropole gallo-romaine. J'ai 10 coffres en granit qui ont contenu des urnes et j'ai certaines urnes en poterie. Oui.
Magique. On retrouve tout de suite François Chandernagor.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Je reçois François Chandernagor qui fait paraître chez Albin Michel l'homme de Césarée. Cher François Chandernagor, vous connaissez bien sûr cette boutade d'Alexandre Dumas. Ce n'est pas grave de violer l'histoire pourvu qu'on lui fasse un enfant. Sous-entendu, pourvu que naisse une œuvre. Mais vous tenez trop à la véracité des romans historiques pour admettre la boutade. En fait, vous n'aimez pas Alexandre Dumas.
Je l'ai découvert très tard. Ça paraît bizarre à dire. Oui, personne ne m'a... Alors là, pour le coup, personne ne m'a dit « tu devrais lire Dumas ».
Parce que la plupart des écrivains avouent, enfants, vers 11-12 ans, avoir vécu dans les bouquins de Dumas.
Mais non, moi pas du tout. Alors j'ai voulu lire « Les Trois Mousquetaires » à 25 ans, parce que, et bon, j'ai pas bien accroché. Depuis, j'ai essayé d'en lire d'autres, puis même les mémoires de Dumas. J'accroche pas, parce que déjà, cette façon de tirer à la ligne les dialogues de Dumas, c'est quelque chose. Bon, alors je sais bien, il paraissait un feuilleton et donc bon, alors je comprends bien, mais tout ça me gêne. Alors mon mari m'a dit récemment, parce que il relisait Monte Cristo, il m'a dit tu devrais quand même lire le Comte de Monte Cristo, c'est très bien. Alors je vais peut-être essayer de lire le Comte de Monte Cristo que je n'ai jamais lu.
Donc la phrase en fait que j'ai citée au début de notre conversation, cette phrase des frères Goncourt, qu'est-ce que l'histoire? Un roman qui a été celle-ci.
Celle-là, elle me va mieux. Mais disons que je me donne des libertés aussi dès lors que l'histoire se tait. Et il y a de grands moments, notamment dans l'Antiquité, qu'il s'agisse de vie de Jude ou qu'il s'agisse de la vie de Sélénée, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas vraiment, de grandes périodes sans repère. Et donc, à ce moment-là, j'ai une grande liberté. Oui. Et d'autre part, même quand on sait les dates ou les faits, on ne sait pas quels sentiments les gens ont éprouvé, comment ils ont vécu tel fait, telle date. Et ça, c'est moi qui l'apporte.
Voilà, lorsque l'histoire est silencieuse, votre imaginaire s'infiltre entre les pièces du puzzle.
Voilà.
Mais alors, jusqu'où, par exemple...
Sans trop déranger, quoi.
Jusqu'où avez-vous voyagé pour respirer l'air qu'a respiré Sélénée, votre héroïne, la fille d'Antoine et Cléopâtre? Sur quelle terre êtes-vous allé, je ne sais pas, pour capter la lumière, les odeurs, l'ombre de la vie d'avant, d'il y a 2000 ans?
Oui, plus dans ma tête, parce que quand même, bon, je suis allée à Césarée, qui est Churchill aujourd'hui, mais il reste pas grand-chose de la ville de Juba, de la ville romaine, parce que la ville moderne s'est construite dessus. Et non seulement actuellement, il n'y a pas beaucoup de respect pour les choses, pour les fouilles et tout ça, mais dès le début de la colonisation française, on a réduit des statues de marbre en chaux pour construire les maisons, hein. On a broyé, etc.
Ah,
dès le début. Donc il restait pas mal de choses, il reste plus grand-chose et c'est pas entretenu. Je suis allée à Volubilis, qui était une ville importante pour Sélénée et Juba, au Maroc. Ça reste, alors là, c'est beaucoup mieux, il y a des ruines, mais enfin c'est au milieu de nulle part, il n'y a pas une ville qui s'est construite dessus, une ville moderne. Donc on voit des choses, mais elles sont généralement plus tardives, parce que c'est une ville qui a grossi au 2e, 3e siècle, donc elles sont plutôt postérieures à l'époque de Juba, les ruines que nous voyons. Et puis j'ai vu aussi Salah, qui est Rabat, où il y a aussi une petite forteresse, et puis c'était aussi une de ces villes. Mais tout
donc
ça.
Donc vous dites, j'ai voyagé dans ma tête, mais en fait, non,
avez
beaucoup.
Je suis allée en Égypte, je suis allée à Alexandrie.
Parcouru de terre,
mais Alexandrie,
oui.
Y a, Ce qui reste d'Alexandrie, c'est sous la mer, hein, comme on sait maintenant. Mais on ne retrouve plus rien, quasiment, dans la ville. Il n'y a plus rien. Même la côte a changé de forme. Et il est probable que...
Simplement l'endroit où se trouvait la plus admirable des bibliothèques de l'histoire du monde, avec 700 000 ouvrages.
C'est pas l'endroit où ils ont situé la bibliothèque qu'ils ont refaite, une bibliothèque très moderne à Alexandrie.
Mais l'endroit
n'est pas, il est pas mal choisi comme endroit.
Ah
oui, je pense que le muséum et la bibliothèque pouvaient être par là. En revanche, il y avait une presqu'île qui avançait au-delà, nettement, sur laquelle étaient les palais. Et ça, cette presqu'île, elle est passée sous la mer à la suite de tremblements de terre et de raz de marée. La côte a beaucoup changé.
Alors, votre nouveau livre vient de sortir donc chez Albin Michel, L'homme de Césarée, mais le quatrième tome qui achèvera la fresque, il est presque déjà terminé ?
Oui, j'espère qu'il pourra sortir au printemps prochain, j'espère. Oui. Mais je suis devenue un peu prudente sur ces questions-là, parce que si tout va bien, si je vais bien, si le Covid ne me mange pas...
Tout va aller très bien, donc on attend. Déjà, il faut plonger dans l'homme
de
Césarée.
Alors le jardin de cendres devrait paraître l'année prochaine, absolument, oui.
François Chandernagor, vous n'écrivez pas sur l'époque actuelle. Elle manque de panache, elle manque de lyrisme. Elle vous ennuie, l'époque actuelle ?
Non, j'ai écrit, vous savez, alors c'est maintenant épuisé, je vais le ressortir, notamment une trilogie de 2100 pages qui s'appelait La Sans Pareil, et qui était la description notamment des milieux politiques où les femmes commençaient à arriver dans les années 70-80. Et j'ai écrit tout un livre là-dessus et sur ce qu'était la société de ce moment-là. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont... un peu prémonitoire, un peu... Donc je veux ressortir ce livre, c'est prévu avec Gallimard d'ailleurs. C'est ma faute si c'est pas ressorti, c'est parce qu'il faut relire les épreuves, c'est un gros boulot. Je suis terrible, les éditeurs n'aiment pas beaucoup ça, mais je prends 3 jeux d'épreuves successifs. Et pourtant, je corrige beaucoup en amont, hein, vous pouvez le croire.
Non, j'imagine.
Mais non, je corrige encore sur épreuve.
Bon, cher François Chandernagor, hélas, il va falloir nous quitter, mais avant cela... Je voudrais savoir, vous recommandez vraiment à ceux qui nous écoutent d'aller admirer au Louvre, s'ils le peuvent bien sûr, le trésor de Boscoréal et la Coupe d'Afrique?
Oui, parce que cette Coupe d'Afrique représente, je ne dis pas que c'est un portrait fidèle, mais représente Séléné. Et on voit Séléné coiffé d'une dépouille d'éléphant, donc incarnant l'Afrique.
Coiffé d'une dépouille d'éléphant.
La dépouille d'éléphant était, comme le lion, c'était les deux façons d'évoquer l'Afrique, sur les monnaies, sur tout ça. Et donc, elle est coiffée d'une dépouille d'éléphant. C'est un très beau plat en argent repoussé.
Oui.
Et donc tout ça est en relief. Et donc, on voit Séléné. C'était coloré. Les pupilles étaient colorées. L'éléphant aussi, doré. Et ça, la dorure a disparu. Certaines choses étaient dorées, d'autres restaient en argent.
Ça a été retrouvé à Pompéi, je crois.
Ça a été retrouvé à Boscoréal, à côté de Pompéi, en effet. Et ça, oui, ça représente Séléné. C'est sans doute ce qu'on a de plus fidèle, en dehors des monnaies, où elle apparaît de profil. Et elle est quand même plus jolie que sa mère, qui, sur ses monnaies, est tout de même pas gâtée.
Jolie que Cléopâtre.
Mais elle ne pensait sûrement pas ça. Elle ne pensait sûrement pas ça, parce que Cléopâtre avait déjà une grande réputation de beauté et de séduction, et être la fille de Cléopâtre, ça devait être très lourd à porter.
Mais en tout cas, c'était passionnant à vivre, et justement, plonger, je vous le recommande, dans L'homme de Césarée que François Chandernagor vient de faire paraître chez Albin Michel. Merci infiniment.
Merci à vous.
Et je vous dis à très très vite pour la suite.
Le Jardin de Cendres.
Le Jardin de Cendres. À très bientôt, François Chandernagor.
Europe 1.
Dans un instant, on retrouve Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.